Il est 6h40, vous écoutez France Culture, bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Vous nous avez rejoint pour votre journal des idées et c'est donc la rentrée scolaire pour les élèves accompagnés des enseignants, personnels éducatifs et administratifs. Et chaque année Jacques, c'est l'occasion d'une réflexion sur le modèle éducatif.
Et oui, le mensuel Sciences Humaines publie un grand dossier sur le sujet, Réussir à l'école. Héloïse Lérété, qui l'a coordonné, rappelle que de la sociologie aux sciences cognitives, tous les champs de l'éducation instruisent la même question, qu'est-ce qui fait réussir ou échouer les élèves? La sociologie porte plutôt la focale sur le poids du milieu social, les psychologues s'intéressent aux ressorts personnels de la performance, motivation, persévérance, confiance en soi, affectivité. Les cognitivistes prétendent décrypter les circuits neuronaux de l'apprentissage, les pédagogues mettent l'accent sur le rôle et les méthodes de l'enseignant. Et elle relève l'émergence de problématiques très concrètes au croisement de ces différentes disciplines, comment transmettre le goût de l'effort ou nourrir la confiance en soi et la persévérance par exemple. Martine Fournier a fait le tour de la littérature concernant la motivation, fruit de l'interaction entre des facteurs individuels, familiaux et sociaux. Elle est une dynamique qui se construit et se travaille. Pour les psychologues Edouard Dessy et Richard Ryan, il faut distinguer les motivations intrinsèques, le goût, la curiosité, des motivations extrinsèques, obtenir une réponse en faisant plaisir à ses parents. Selon eux, seules les premières conduiraient à un apprentissage durable. D'autres, comme Albert Bandura, mettent en avant le rôle de la confiance en soi qui stimulerait le goût du défi personnel. Le neuropsychologue Stanislas Dehaene identifie quant à lui 4 fonctions majeures de l'apprentissage, l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. Un enfant actif, dit-il, qui se trompe, apprend de ses erreurs alors qu'un enfant passif n'apprend rien. Antonio et Anna Damasio insistent sur le rôle des émotions positives qui nous guideraient dans la meilleure manière de satisfaire curiosité et plaisir d'apprendre, alors que selon la pédiatre Catherine Guéguen, la production de cortisol induite par le stress, lorsqu'elle est fréquente, attaque les neurones de l'hippocampe, région cérébrale essentielle pour l'apprentissage, la mémorisation et la régulation émotionnelle. Maëlle Vira, psychologue à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, relève à contrario que les comportements de soutien des enseignants, attention, encouragement, intérêt pour le point de vue de l'enfant, sont fortement associés aux manifestations de sécurité affective des enfants et constituent un puissant levier scolaire. Les enseignants auront été le principal sujet de la conférence de rentrée du ministre de l'Éducation nationale, Mouvement social oblige. Dans le grand entretien avec Jean-Michel Blanquer que publie l'hebdomadaire Marianne, il insiste sur la revalorisation du métier, notamment en termes de rémunération. Les profs français sont parmi les plus mal lotis dans les pays de l'OCDE, gagnant moins de la moitié que leurs collègues allemands et moins qu'aux États-Unis, au Japon, en Espagne ou en Italie. La paupérisation entame leur statut et leur crédit social et nuit par contre-coup à leur autorité. Le ministre aborde également la question de la formation des enseignants et il cite l'âme désarmée, laissée sur le déclin de la culture générale d'Alan Bloom, où il relève des passages sur la France extrêmement intéressants puisqu'il décrit notre capacité à développer l'esprit critique par une fréquentation des grands auteurs. Jean-Michel Blanquer estime avoir opéré un rebond par la rigueur méthodologique imprimée dans les petites classes et dans les programmes de français au lycée, ce qui devrait rétroagir sur la formation des professeurs. Pour François Dubé, sur le site AOC, c'est le sort des exclus de la sélection scolaire qui, en se dégradant, a engendré colères et frustrations, affaiblissant sensiblement la confiance dans les valeurs démocratiques portées par l'école. Le sociologue observe que la longue période de massification scolaire ouverte au début des années 1960 n'a pas tenu toutes ses promesses, en particulier le postulat de l'égalité des chances et l'idée d'une éducation émancipatrice, développant l'esprit critique et élevant le niveau culturel de la population. Il suffit d'observer les succès de l'autoritarisme, du nationalisme et de la démagogie pour s'en convaincre, assène-t-il. Il dénonce les parcours de sélection qui constituent un mécanisme d'agrégation des petites inégalités. Son verdict, alors que les inégalités scolaires semblaient résulter directement de la structure des inégalités sociales, elles procèdent désormais de l'accumulation et de la répétition des petites inégalités entre les élèves. Selon lui, ce ne sont pas des leçons et des cours bien pensés qui suffiront à produire des citoyens éclairés. Les Les élèves doivent faire des expériences démocratiques, travailler ensemble, participer à la vie de l'établissement pour redonner un sens concret au slogan usé d'une communauté éducative.